À table.
Bienvenue au restaurant des Grandes Tables de la Friche, à l'occasion de la résidence de Jean-Paul Rocher, éditeur. Résidence qui donnera lieu à de nombreux moments de rencontres, de débats, d'ateliers et de dégustations aussi, le tout jusqu'à la fin du mois de juillet. Ça sera l'occasion de mettre à la même table culture et gastronomie, mode de vie et mode de cuisson, tendance et renouveau d'une cuisine française de plus en plus ouverte sur des influences mondiales, du doux, de la mer, de l'acide et du sucré, et aussi peut-être quelques réflexions pertinentes ou impertinentes pour pimenter le tout. Premier moment de rencontre publique dans ce cadre aujourd'hui, avec pour thème la géopolitique du goût. Avons-nous tous le même goût, les mêmes coutumes alimentaires? Où se situent les frontières, les zones de transit ou d'influence, les plaques tournantes? Comment ce qui nous semble aujourd'hui commun nous est parvenu au fil de l'histoire, d'une longue histoire, aussi longue que la tradition de se mettre à table et de discuter le bout de gras? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec trois invités. Jean-Paul Rocher, tout d'abord, éditeur qui compte à son catalogue de nombreux ouvrages tenant à la gastronomie et au vin, particulièrement au vin naturel, je crois, mais aussi des ouvrages de littérature et des essais, comme par exemple celui de Christian Boudan, auteur de Paris Cuisine au milieu du monde et de la géopolitique du goût. Ça tombe bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Philippe de la Courcelle est aussi notre invité avec son frère Marc. Il est à la tête du restaurant Le Prévert à Paris, dans le 5e arrondissement, où la cuisine se saupoudre d'épices et d'influences, notamment en provenance d'Asie. Philippe de la Courcelle est actuellement en cuisine, en train de mettre la dernière main, la dernière pincée d'épices sur les plats qu'il nous a concoctés pour ce soir, et il va nous rejoindre dans quelques instants à cette table. Voilà nos ingrédients, le four est préchauffé, le piano n'attend plus que quelques mots pour faire ses gammes. Eh bien, en avant la musique.
Beuveur très illustre et vous vérolez très précieux, car à vous n'en a autre et dédié ceci, Platon. Louant son précepteur Socrate, sans controverse, prince des philosophes, entre autres paroles, dit être semblable à Silène. Silène était jadis petite boîte telle que voyons de présent est-ce boutique des apothécaires, peintes au-dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, oiseaux bridés, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs limoniers, et autres telles peintures contrefaites à plaisir pour exciter le monde à rire.
Géopolitique du goût. Au menu, en amuse-bouche, petite réflexion sur la cuisine du soleil. Il est en effet de bon ton aujourd'hui de louer les mérites du régime crétois. Légumes à tout va, filets d'huile d'olive, légers, diététiques, parfaits pour la ligne, tous les magazines en font leur marronnier. La cuisine du soleil, c'est bon pour la ligne, préparez vos maillots, sur la plage, va falloir assurer. Formidable, ça fait vendre et ça nous change des oméga 3. Oui mais au fait, la cuisine méditerranéenne, c'est quoi ? Elle est née peut-être dans la plus haute antiquité, sur les bateaux des marchands grecs et dans les bagages des légions romaines. Ou bien peut-être est-ce qu'elle n'est qu'une vue de l'esprit et la réduction d'une diversité de pratiques et de cultures à une liaison un peu artificielle. Première question, premier sujet de discussion pour cette rencontre. Existe-t-il une cuisine méditerranéenne ? Pour entamer la discussion, Christian Boudan.
Merci, bonsoir. Pour répondre franchement, de mon point de vue, non, bien sûr. Il n'existe pas de cuisine méditerranéenne en soi. Il y a une telle diversité d'ingrédients, une diversité de façons de cuisiner, de saveurs autour de la Méditerranée qu'on serait bien embêté pour pointer quel serait le programme commun, si je puis dire, de toutes ces cuisines. Par contre, on peut essayer de se demander pourquoi ce concept est apparu il y a maintenant 10 ou 15 ans. Il est certainement, il a été popularisé en fait dans la foulée des études épidémiologiques sur les maladies cardiovasculaires et sur les bienfaits qu'on a trouvés à l'alimentation du sud de l'Europe. Hein, pour résumer, plus on est au nord, plus on a la maladie cardiovasculaire, plus on est au sud, moins on en a. Donc de là est née cette idée du régime crétois, pour ne pas dire la cuisine crétoise, qui serait une espèce de parangon de notre alimentation. Alors, il n'y a pas de cuisine méditerranéenne en soi. On peut évidemment penser que tout le monde autour de la Méditerranée se nourrit d'ail, de tomates, ou de haricots, ou d'huile d'olive. C'est absolument pas vrai.
Louons son précepteur Socrate, sans controverse, prince des philosophes. Entre autres paroles, dit être semblable à S.
La cuisine méditerranéenne dans l'Antiquité.
Silène était jadis petite boîte telle que voyons de présent S boutique des apothécaires.
Hein, très important, le monde antique cuisinait au vinaigre. Pourquoi ? Parce que le vin, nous on a l'habitude de garder le vin plusieurs années. Le grand problème du monde antique, c'était de garder le vin d'une année sur l'autre. Il se gâtait avec la chaleur, on n'avait pas des modes de conservation. On mettait de l'eau de mer, on mettait tout ce qu'on voudra. Aujourd'hui, on met du dioxyde de soufre en abondance. Hein, donc on a oublié qu'il y avait d'autres manières. Mais si on prend du riz de cinagre, on met de la résine dedans pour le conserver. Cette situation faisait qu'en fait, il y avait beaucoup de vinaigre à disposition, et le monde antique connaissait les vertus du vinaigre, les vertus oxydantes et antibactériennes. C'est pour ça que les légions romaines buvaient du vinaigre coupé avec de l'eau. Et la cuisine antique est très vinaigrée, très aigre-douce. On utilise les fruits, on utilise le miel, on utilise le défritum, le jus de raisin concentré, et on utilise beaucoup de vinaigre. L'islam a supprimé progressivement la vigne, l'a laissé aux communautés chrétiennes et juives dans les pays qu'ils administraient. Mais en fait, la culture de la vigne a dépéri, hein, lentement. On en trouve encore de la vigne en Andalousie, au XIe siècle, etc. Mais les plats vinaigrés se sont éteints dans ce monde.
Est-ce que ça forme aujourd'hui un clivage entre la cuisine du sud de la Méditerranée et une cuisine du nord de la Méditerranée qui se rejoindrait justement avec cet usage ou cette consommation ou non des produits dérivés de la vigne?
On pourrait se demander, d'ailleurs, il y a une question très simple. Quand on regarde les ragoûts algériens ou marocains, il y a une quantité de ragoûts extrêmement sucrés. Il y en a qui sont déjà très doux parce qu'on utilise des fruits. On peut utiliser des pruneaux, des fruits secs, des dattes, etc. Mais il faut dire aussi qu'on resucre, on met du miel. On resucre très souvent. Il y a un célèbre ragoût d'agneau et de pruneaux. Bon, n'importe quelle femme algérienne va remettre du sucre dedans. Pour nous, c'est quand même très dur. Et il faut comprendre ça autrement. Il faut voir qu'en fait, moi, de mon point de vue, la partie acide a été enlevée. A été enlevé au fil du temps, et il nous est resté ce goût comme ça pour le doux, s'y rajoutant au fait que la poussée arabe en Méditerranée a poussé avec elle le sucre et la culture du sucre pendant tout jusqu'au XIVe siècle, avant que le sucre passe en Amérique. Tout l'Orient en fait partage ce goût pour le sucre et pour le gras, pour le doux. Il y a deux raisons. D'abord, le voyage du sucre dans l'histoire. Le sucre vient de Nouvelle-Guinée, mais son acclimatation, c'est l'Inde. Donc l'Inde est le grand acclimateur du sucre, et un des pays où on mange le plus sucré au monde, c'est l'Inde. Le sucre est partout, on adore le sucre, on mange énormément de sucreries. La poussée du sucre, comme ça, de la canne, est découverte par les armées d'Alexandre au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le sucre passe après par la Perse, et puis après il passe au Moyen-Orient, et puis il passe au Maghreb, et puis il va jusqu'à Madère, jusqu'aux Açores, avant de franchir l'Atlantique. Les endroits le plus sucrés, je sais pas, tout l'Orient aime le sucre. Et il y a un deuxième facteur qui se rajoute là-dessus, c'est qu'en fait, l'Orient, jusqu'à récemment, est resté dans l'orbite de la médecine hippocratique.
Mais par telle légèreté ne convient à estimer les œuvres des humains. Car vous-même dites que l'habit ne fait point le moine, et telle est vêtue d'habit n'a quelque de dangarement comme elle était les vêtues du cap espagnol, qu'un son courage nullement à faire à Espagne. C'est pourquoi faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui est déduit.
Jean-Paul Rocher, parlons un petit peu du vin, si vous voulez bien. On l'a évoqué tout à l'heure comme peut-être une zone de clivage entre plusieurs formes de cuisine méditerranéenne. Longtemps, les vins de Méditerranée ont eu une réputation sulfureuse, et j'emploie le mot sulfureux à dessein. Et aujourd'hui, il semble que les choses changent beaucoup. Est-ce qu'il vous semble que tout autour de la Méditerranée, il y a une certaine cohérence dans la manière de faire le vin, ou bien est-ce que les pratiques de vinification sont très différentes d'un pays à l'autre, d'un bord à l'autre de la Méditerranée ?
Alors là, vous me posez une... Enfin, c'est un problème que je n'avais jamais encore envisagé, mais on ne peut pas parler de vin méditerranéen. Enfin, là, alors là, je suis catégorique, il n'y a pas de vin méditerranéen. Il y a des vins dans les différents pays qui composent enfin, le pourtour méditerranéen, mais il n'y a pas de vin méditerranéen. On peut parler des Côtes du Rhône, on peut parler des vins de Toscane, on peut parler des Rioja, etc. Bon, éventuellement des vins d'Algérie, mais il y a... c'est pas des vins méditerranéens. C'est un petit peu comme si on disait il y avait des vins américains parce que il y a des vins en Californie, etc. Non, c'est pas une... En tout cas, c'est pas, ça peut pas s'expliquer de cette manière-là. En revanche, évidemment, on peut parler de tous les vins qui existent dans le sud de la France. Bon, peut-être aussi au Liban, je connais très mal les vins libanais. Mais moi, je suis plutôt attaché, effectivement, à cette nouvelle école, si on peut appeler ça une école, tendance, ou... Que nous on a l'habitude de qualifier de vin naturel. Et ces vins naturels, ça évidemment ça tranche avec tout ce qu'on peut boire habituellement. Et là, ce soir, à partir d'aujourd'hui, ici vous pouvez en déguster puisqu'on en a fait rentrer. Et puis la carte des vins pendant 3 mois va être agrémentée de ces vins-là.
Est-ce qu'on pourrait donner une définition du vin naturel, en fait ? C'est quoi, le vin naturel, par rapport au vin biologique, par exemple ?
Alors, il y a une différence. C'est pas une définition, mais on peut parler de la différence qui est très nette. Les vins bio, d'abord, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vin bio. Parce qu'on parle de vin issu de l'agriculture biologique. Mais ensuite, au stade de la vinification, ces vins-là peuvent être vinifiés d'une manière tout à fait pas artificielle, mais enfin, avec des intrants... qui sont tout étrangers à la nature du vin, enfin au côté naturel du vin. C'est-à-dire qu'on peut mettre du soufre, de l'acide tartrique, tout un tas d'autres choses, comme ça, des produits chimiques. On peut même les élever avec des levures exogènes, des levures industrielles, et des arômes artificiels également pour leur donner un certain parfum, aussi bien pour la dégustation olfactive que pour la dégustation... en bouche, donc c'est des vins qui sont pas forcément naturels. Et le vin naturel, c'est un processus qui est complet, c'est-à-dire qu'il y a pas d'intrants artificiels, il y a pas de produits chimiques. Il peut y avoir éventuellement une toute petite mise de SO2 à la mise en bouteille, mais c'est tout ce que les gens peuvent tolérer.
Le SO2, c'est l'oxyde de soufre.
Le soufre, ouais.
Difficile de parler de géopolitique sans évoquer l'Empire américain, il est aujourd'hui très présent. Ils ont la prétention de nous expliquer comment on fabrique un vin et d'avoir à cet égard des méthodes extrêmement scientifiques dans leur procédé de vinification. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, de toute façon, ils ne peuvent pas nous apprendre
à faire du vin. Ils prétendent pouvoir reconstituer un Bordeaux, plus Bordeaux qu'un Bordeaux.
Oui, mais il n'y a pas que les Américains qui font ça. C'est toute l'école bordelaise qui s'est répandue à travers le monde, avec des œnologues payés des fortunes pour faire le même vin partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est même plus l'uniformisation, c'est une standardisation qui s'impose parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, comme il n'y a pas de terroir, donc ce sont des vins de cépage.
Rochetate-vous en que bouteille. Gagne. Réduisez à mémoire la contenance cavier. Mais vêtez-vous chien rencontrant quelques eaux médulaires. C'est comme dit Platon, la bête du monde plus philosophe. Si vous l'avez, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il entonne, de quelle affection il le brise, et de quelle diligence il le suce.
Au confluent de la Méditerranée et de l'Extrême-Orient, Philippe de la Courcelle nous parle de sa cuisine.
Donc je connais bien la cuisine japonaise et j'essaie de restituer en fait l'essence de certaines cuissons, assaisonnements sur les plats et les produits français. Donc voilà, donc là j'ai pu principalement utiliser les produits de méditerranéens. Donc là par exemple ce soir j'ai fait une escabèche de sardines, mais l'escabèche elle est faite avec une petite infusion à base de soja, gingembre, vinaigre de riz. Je fais des maquereaux, ils sont laqués. Je fais une petite soupe de citron en entrée froide avec des radis daikon, qui sont des radis en fait énormes, japonais, croquants, c'est tout à fait agréable sous la dent. Et puis, alors en dessert, je m'éloigne un petit peu, sans vraiment, c'est un petit peu provocateur si je peux dire, je fais un petit flan de poivron jaune aux framboises. On reprend les poivrons du Méditerranée et puis on les travaille différemment. Et puis, comme c'est la saison des fraises, je fais des fraises marinées au persil. Donc voilà, c'est un petit peu différent.
Étonnante alliance de goût. On aura l'occasion à la fin de ce débat, de cette table ronde, de reparler des liens avec l'Asie qui sont évidemment de plus en plus présents, de plus en plus actuels et qui se retrouvent très certainement dans nos habitudes alimentaires et dans leur évolution. On a commencé autour de la Méditerranée, on va maintenant s'occidentaliser un petit peu plus, de l'Orient à l'Occident, de nombreux allers-retours sur le grill, ça sent parfois un peu le brûlé, particulièrement en ce moment du côté du Moyen-Orient. Revenons au Moyen-Âge, à l'époque où nos valeureux seigneurs rentraient des guerres saintes et introduisaient dans nos habitudes culinaires occidentales de nouvelles pratiques, de nouveaux ingrédients. Et puis, quelques années encore après, on est passé à un autre stade. Des conquérants partaient vers de nouveaux mondes pour des commerces parfois étranges, pas toujours très nets. En tout cas, ils ramenaient dans les cales de leurs bateaux de nouvelles épices, là aussi, de nouveaux ingrédients, des cafés, des chocolats, des piments. Dans notre géopolitique du goût, puisque c'est notre sujet, quelle influence ont eu ces empires coloniaux sur l'évolution des goûts et des pratiques culinaires ? Christian Boudan ?
Oui, le choc du XVIe siècle est énorme. C'est une première mondialisation ibérique, puisque l'Espagne et le Portugal sont concernés. C'est une vraie mondialisation, parce qu'elle touche non seulement l'Amérique, mais aussi le Pacifique. Il faut penser aux Philippines. Et dès le XVIe siècle, les relations commerciales entre les Philippines et le Mexique, par exemple, sont établis. On trouve on fait le tour de la terre avec les bases espagnoles ou portugaises. Le choc est énorme. Il est d'abord totalement énorme pour les populations amérindiennes. D'une part, énorme en termes physiques de population de démographie, puisque 90% des populations disparaissent sous l'effet de l'unification microbienne. Et d'un point de vue alimentaire et culinaire, le choc est aussi considérable. Non seulement les aliments traversent l'Atlantique dans les deux sens, ils traversent beaucoup plus vite dans le sens Europe-Amérique que dans le sens contraire, puisque les aliments européens sont arrivés en Amérique avec les cultivateurs, les colons pour les cultiver, alors que dans l'autre sens, les aliments sont arrivés dans les cales des bateaux, mais pas avec les indigènes pour les mettre en œuvre. Donc c'est ce qui explique en fait la très lente diffusion des aliments américains dans le monde européen. De nombreux aliments d'ailleurs qu'on trouve quotidiennement sur les marchés de Bogota ou de Lima ou de Quito sont pas du tout connus en Europe. Je pense notamment aux racines d'altitude. D'autres choses pénètrent encore très lentement comme la quinoa qui reste un produit un peu de curiosité pour la restauration.
Rien plus qu'un peu de moelle. Vrai que ce peu plus est délicieux que de beaucoup de tout autre, pour ce que la moelle est aliment élaboré à perfection de nature. À l'exemple dit celui vous convient être sage pour fleurer, sentir et estimer ces beaux livres de haute graisse. Puis par curieuse leçon et méditation fréquente, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Avec espoir certain d'être fait écorre et preux à la dite lecture. Car en Icelle, bien autre goût trouverait et doctrine plus absconce, laquelle vous révélera de très hauts sacrements, tant en ce que concerne notre religion que aussi l'état politique et vie économique.
C'est l'époque aussi de cette ouverture du monde, c'est l'ouverture où on commence à cultiver en grand la canne à sucre au Brésil. Hein, d'abord dans les Antilles, et puis après le Brésil va suivre. Et le sucre est de moins en moins cher. Il baisse peut-être, entre le Moyen-Âge et ce moment-là, peut-être d'un facteur 10. Là, il avait, aujourd'hui, et puis les moments où on le vendait chez l'apothicaire au Moyen-Âge, il a peut-être baissé d'un facteur 1000. Hein, quelque chose comme ça, c'est fantastique. Et donc le sucre arrive un peu plus à Paris, et un médecin anglais qui voyage à Paris assez régulièrement note, dans ses notes de voyage, vers 1700, l'embonpoint qu'a pris la population parisienne. L'embonpoint, il dit, par rapport à ce qu'il avait vu quelques années avant, tout le monde est gros à Paris, et il attribue ça au fait du café, du chocolat, qu'on boit avec beaucoup de sucre, et des liqueurs fortes qu'on commence à boire. Le sucre a fait grossir les Parisiens il y a 3 siècles.
Issus de ces colonies, de très nombreuses épices nous sont parvenues en Europe. Je crois, Philippe de la Courcelle, que votre cuisine est très épicée. Peut-être lesquelles vous intéressent le plus particulièrement, lesquelles se marient en tout cas de la manière la plus étonnante et la plus originale avec les aliments qui constituent ici nos habitudes alimentaires.
Alors, quelle est l'épice qui me... Il n'y a pas vraiment de réponse. Je veux dire, c'est l'ensemble des épices que l'on adapte, enfin que j'adapte en fait, parce que ma cuisine n'est pas une cuisine exotique. En Asie, les épices sont utilisées en quantité nombreuse. Je veux dire, dans un plat, il y a toujours 7, 8, 10 épices qui interviennent. Moi, j'essaie de faire des monocépages aussi en épices. C'est-à-dire que comme ça, tout le monde reconnaît la saveur, le goût de l'épice. Et aussi, ça ne surmâche pas le goût du produit, le poisson, la légume, la viande. Enfin, donc tout est reconnaissable.
Donc, est-ce que c'est une caractéristique de la cuisine française, ça, cette volonté que l'on sente très très nettement le goût de l'aliment qui a servi de base au plat, plutôt que de favoriser des mélanges extrêmement complexes qui seraient plutôt l'apanage de cuisine orientale?
Là, c'est un petit peu... Enfin, c'est ma cuisine, donc le dire que la cuisine française... utilise les produits récemment, oui, on a fait ça, c'est-à-dire qu'avec les influences qui sont venues d'extérieur, on a voulu mettre le filet d'agneau naturel, on a voulu, alors qu'avant il était sous une croûte avec des champignons, avec une cuisine qui n'existe plus ou quasiment, quoi. Donc maintenant, effectivement, on essaie de mettre le produit en avant pour que on goûte la valeur du produit dans son plus simple habit, en fait. Et alors on assaisonne autour de façon à ce que ça le mette en valeur plutôt que que le goût disparaisse en fait avec des assaisonnements trop forts, trop pointus, quoi.
Christian Boudin, une réaction?
Oui, d'abord une première réaction, c'est ce qui est à l'est de la Méditerranée n'est pas unitaire, c'est-à-dire une extraordinaire différence entre ce que peut être la cuisine du Proche-Orient, de l'Inde, du Japon, de la Chine, et on peut pas mettre ça dans... C'est pas parce que les épices sont plus vers l'Orient, c'est très difficile d'imaginer que ça forme un tout. C'est très 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 très, très différent. Une chose quand même qui est sur le respect du produit. Ce qui est surprenant, par exemple, quand des cuisiniers français vont en Chine, alors je parlerai pas du Japon parce que Philippe est un spécialiste du Japon, j'en suis pas du tout un. La cuisine chinoise, les cuisiniers chinois sont étonnés de voir que les Français transforment les produits. Les cuisiniers chinois les rectifient. Elle les rectifie, les épices peuvent servir à rectifier, d'autres procédés comme des marinades, des choses comme ça peuvent servir à les rectifier. Mais en fait, la cuisine chinoise transforme assez peu. Allez dans un restaurant chinois, vous verrez que vous mangez des choses qui sont presque crues. Le brunissage, on connaît pas tellement ça, c'est pas vraiment intéressant. La découpe cherche à favoriser, à garder quand même cet aspect du produit. On fait pratiquement pas de mousse, on fait pas d'émulsion, on cherche pas trop à faire des extraits comme on le faisait. Une espagnole n'a aucun sens dans la cuisine chinoise. Une réduction de viande pour refaire une autre chose, etc., n'a pas beaucoup de sens. Donc s'il y a une différence pour moi, elle est que les Français respectent le produit. C'est peut-être une chose plus nouvelle aujourd'hui qu'avant, mais d'autres cuisines sont très fixées sur les qualités propres des produits eux-mêmes.
Jean-Paul Rocher, peut-être une réaction sur ce respect des produits, ce culte du produit, de la fraîcheur, du goût unique.
Bon, c'est pas un culte, puis c'est pas nouveau. Ça fait bien déjà une trentaine d'années que c'est pratiqué. Avec la nouvelle cuisine, on a mis en avant les produits parce que ça devenait complètement incongru, cette cuisine bourgeoise. Avec, comme disait Philippe, des sauces qui couvraient tous les plats, ça devenait et puis diététiquement absurde en plus. Ça collait plus avec le mode de vie. C'est un développement, une évolution tout à fait naturelle.
Ce ne sera chose inutile ni oisive, vu que sommes de séjour. Remonte voir la première source et origine dont nous est né le bon Pantagruel.
On va avancer dans notre discussion, dans une progression presque chronologique. À la fin du XVIIIe siècle arrive en France une révolution. De toutes les villes et les campagnes accourent les petits soldats qui chantent la Marseillaise. Une révolution politique précédée d'une révolution culinaire, c'est l'avènement de la République bourgeoise et de la cuisine idoine. On en parlait à l'instant, Jean-Paul Rocher l'évoquait. Les plats des régions se confrontent dans la capitale. C'est l'invention de la nation, l'avènement de la cuisine française, cocorico. Mais au fond, la cuisine française, c'est une cuisine européenne qui se cuisine à Paris. Puisqu'on y mange à l'anglaise, on y mange à l'italienne, on y mange à l'espagnole. L'agriculture, par ailleurs, se transforme, se mécanise au cours du 19e siècle, qui suit immédiatement cette révolution. C'est déjà l'amorce d'une première globalisation. Alors, notre cuisine française, c'est une révolution ou un melting pot ? Christian Boutan.
C'est une longue histoire. D'abord, ce qui s'est passé il y a deux siècles, au moment de la Révolution et de l'Empire, est un moment charnière extrêmement important, sous deux aspects. Le premier, c'est que cette cuisine, qui est la grande cuisine qui a été élaborée, celle dont nous avons été les héritiers jusqu'à la fin du XXe siècle, est une cuisine qui a été élaborée pour la cour, pour les hôtels particuliers, pour le roi. Et la Révolution met sur le pavé des milliers de professionnels de bouche. Ces milliers de professionnels de bouche ouvrent des commerces et ouvrent des restaurants. Et d'une certaine façon, cette cuisine se nationalise. Tout le monde s'en empare. Elle est vulgarisée. Tout le monde veut faire de la cuisine. C'est quelque chose qui devient très populaire. Le deuxième aspect fondamental de ce tournant historique, c'est que c'est la naissance de l'Europe. L'Empire, c'est la naissance de l'Europe. Les guerres napoléoniennes font un brassement considérable dans le continent, amènent des armées étrangères à Paris au moins deux fois, mais emmènent les armées françaises ailleurs, et puis les communications sont complètement nouvelles. Je pense pas aux naissances du télégraphe, mais simplement le fait que va servir peut-être pour la première fois en grand cet extraordinaire réseau routier que fit construire la royauté avant la Révolution et qui servait pas. Hein, toutes ces routes nationales dont nous avons hérité, ces grandes routes droites, ont été construites par Turgot pendant le demi-siècle qui précède. Elles étaient vides. Avant la Révolution, elles étaient vides. Et elles ont servi, en fait, à alimenter, avec la Révolution, non seulement à faire voyager rapidement les troupes de l'Empire. Ces routes-là expliquent aussi qu'on ait pu aller de Boulogne au centre de l'Europe en quelques semaines. Mais elles servent très rapidement, après la Restauration et puis au moment où avant que même existe le réseau ferré français, à bonder les halles de Paris. Et là, on a quelque chose de fantastique qui se met en place. Le chemin de fer va relayer tout ça. Et puis s'installe le 19e siècle, la révolution industrielle et puis la montée de population, à la fois française, du Limousin, de Bretagne, etc., mais aussi étrangère. Les Allemands viennent en masse à Paris pour s'embaucher dans ces nouvelles industries, un prolétariat allemand qui nous a amené les brasseries et la consommation de la bière à Paris. On peut continuer comme ça sur cette chose. L'Italie a toujours été présente puisque c'est tout comme la Provence, elle fournissait des denrées depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge, et j'ai envie de dire même depuis l'occupation romaine. Ce courant d'échange qui passait par la vallée du Rhône, qui remontait la Loire avec sa rupture de charge au niveau de Roanne, et puis après qui était déchargé à Orléans, on amenait du sud, on amenait des anchois au sel, on amenait du thon en marinade, on amenait des olives, on amenait de l'huile d'olive, on amenait aussi des produits qui venaient peut-être d'Italie mais qui passaient aussi par d'autres chemins, comme la la mortadelle de Bologne, comme les pâtes, etc. Tout ça, sous l'Empire, devient une banalité. Les Provençaux sont montés. Ils ont amené avec eux la cuisine à l'ail, les tomates, l'huile d'olive en plus grande quantité. Et ça s'est intégré à la cuisine parisienne. Alors évidemment, je parle en parisien, donc on peut essayer de remonter les bretelles. Mais...
C'est un petit peu abrupt, parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes en train d'affirmer qu'au fond, la cuisine française, c'est la cuisine parisienne. Ça ne fera peut-être pas forcément plaisir à tout le monde, et notamment du côté de Lyon, par exemple, ou d'autres terroirs encore.
Ouais, il y a des cuisines régionales magnifiques. Il y a une cuisine qui est née, un style culinaire est né, c'est la cuisine des sauces. La cuisine des sauces et la cuisine des fonds. C'est ce qui a fait la cuisine française pendant des siècles. Cette cuisine est née à Paris. Elle est née à Versailles, elle est née à Paris. Elle a essaimé partout. C'est à Paris aussi que sont rentrées tout un tas d'innovations culinaires. L'influence anglaise qui était considérable dans notre cuisine. Je pense pas seulement au roast beef, au steak qui arrive là à la fin du 18e siècle, mais toute cette cuisine au beurre, de faire des légumes au beurre bouilli, toutes ces choses dont on m'a servi toute mon enfance, hein, la cervelle au beurre bouilli, au beurre fondu, les haricots verts au beurre fondu, la morue au beurre fondu, les choux-fleurs au beurre fondu, les sauces blanches faites avec de la farine brassée dans du beurre avec de l'eau. Tout ça, c'est une influence anglaise. C'est rentré à Paris, c'est pas rentré ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Strasbourg.
Sans doute parce que c'était la ville la plus cosmopolite à ce moment-là, enfin en tout cas celle où se retrouvaient les influences de l'Europe du Nord, tout comme à Marseille se retrouvaient les influences de la Méditerranée.
Le grand lieu touristique des Anglais, c'est Paris, hein. Ça a toujours été. Enfin, tout le 19e siècle, à travers l'hôtellerie s'est installée aussi pour ça, café anglais à Paris, restaurant anglais, toute une faune comme ça, une population anglaise qui est là. Hein. Dès que la paix d'Amiens avec Napoléon signée, des masses d'Anglais reviennent à Paris.
Bon, on l'a bien compris, pour Christian Boudan, l'épicentre de la cuisine française, c'est Paris. Est-ce que pour vous, vous avez le même avis, peut-être Philippe de la Courcelle, Jean-Paul Rocher? Est-ce qu'il y a un point central, un épicentre de la cuisine française?
Est-ce qu'il y a un épicentre? Oui, certainement, oui, bien sûr, parce que maintenant... Tout le monde se réfère, en fait, la bonne cuisine est la cuisine française, du moins en Europe. Je veux dire, on voit maintenant les Espagnols, les Italiens, les Anglais, aux États-Unis, tout le monde fait une cuisine qui, quand même, la racine vient de ce qu'on fait en France. Quoi. Donc ça, après, c'est développé, ils ont utilisé des influences mixtes, parce qu'aux États-Unis, les Italiens, les Chinois, les Japonais, les Hispaniques, tout ça, ont mélangé en fait leur goût, mais quand on est dans un cadre de cuisine élaborée, la base, c'est quand même c'est la cuisine française. Hein,
Une chose en tout cas qui a disparu de l'Île-de-France, et sans doute Jean-Paul Rocher le regrette amèrement, c'est la culture de la vigne, bien sûr, qui était pourtant historiquement très, très présente dans cette région. Et aujourd'hui, il n'y a plus de vignes à Paris.
Il y a les vignes à Montmartre.
Non. Deux pieds de vigne.
Non, à Gennevilliers, je crois qu'il reste. Ils ont replanté quelques plants de vignes. Mais je ne peux pas regretter le vignoble d'Île-de-France, puisque je ne l'ai pas connu. Mais c'est vrai qu'autrefois, c'était un vignoble très important, qui, d'ailleurs, Christian en parle, je crois, dans Paris Cuisine. Il me semble qu'il y a une allusion, là, ou un petit chapitre.
Le vignoble parisien est à l'origine de cette cuisine pointue au vin blanc et au vinaigre qu'on pratique à Paris depuis qu'il y a des vignes. La vinaigrette, pour moi, c'est un truc parisien. D'ailleurs, je vais vexer tous les autres, mais je pense pas qu'on fasse de meilleure vinaigrette qu'à Paris. Hein, simplement, elle est plus forte, on met plus de choses dedans. Mais ça vient d'un fait très simple. Paris exporte tout le Moyen-Âge pour exporter son vin blanc en Angleterre, en Hollande, un peu partout. Une abondance de vin blanc, ce qui veut dire que Paris était aussi en concurrence avec Dijon sur la moutarde, au niveau des vinaigriers fameux. Hein, Paris, Maille en était un, il approvisionnait toute la cour. Et la cuisine parisienne, une cuisine vinaigrée. Et cette vinaigrette, elle se décline sous tout un tas de formes, que ce soit des vinaigrettes, que ce soit la ravigote, la gribiche, tout ça, ce sont des déclinaisons de la vinaigrette. Ce sont les vraies sauces de Paris. Ce sont les vraies sauces de Paris. Les autres sauces qui sont des réductions de viande, c'est la cuisine de cour. Maintenant, elle est en voie de perdition extrêmement avancée. Le velouté, l'espagnol, sont sans doute encore enseignés, mais bon, la restauration qui se veut plus légère, plus un peu moins dure à digérer, moins convenue, n'utilise plus ces fonds-là. Les vinaigrettes, elles, perdurent et sont toujours là, absolument indéboulonnables.
Et je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes ces recettes de la cuisine parisienne dans Paris Cuisine au milieu du monde, un ouvrage de Christian Boudan, publié chez Jean-Paul Rocher, éditeur. Pour ceux qui nous écoutent à l'instant, ce livre est sans doute disponible sur la table qui est à l'entrée du restaurant, avec de nombreux autres, d'ailleurs, ouvrages des éditions Jean-Paul Rocher. Jetez-y un œil, ça vaut le coup.
Mais accidents bien divers leur en advinrent, car à tous survint au corps une enflure très horrible, mais non à tous en un même lieu. Car aucun enflé par le ventre, et le ventre leur devenait bossu comme une grosse tonne, dès qu'elle est écrit « Ventrem omnipotentem ».
Aujourd'hui, fooding, fast food, slow food, les termes de la hype culinaire se déclinent en anglo-saxon. Au demeurant d'ailleurs sitôt formé, l'empire américain s'installe dans le déclin, l'obésité et la régression du goût. C'est qu'un nouveau soleil se lève à l'est, d'où viennent bientôt de nouveaux usages culinaires. Thaïlande, Chine, Corée, Japon, Vietnam, autant de cultures alimentaires aujourd'hui très courantes à nos tables. Le cru, le saisi, le sauté frit deviennent insensiblement des modes communs, des pratiques courantes. C'est vrai que le wok aujourd'hui fait partie de la batterie de la ménagère presque aussi facilement que la poêle ou la casserole. Alors, comment est-ce que cette cuisine occidentale intègre cette nouvelle donne du nouvel ordre mondial où l'essentiel des richesses et de la croissance se situe à l'est? Comment est-ce que notre cuisine française intègre les influences venues de l'Asie? Peut-être pour commencer, Philippe de la Courcelle, vous aviez déjà un peu évoqué cette question tout à l'heure.
Il y a quelques chefs français qui ont été en Asie il y a une vingtaine d'années et qui ont ramené des pratiques en France. Donc ça a été apprécié, en fait, les légumes croquants, les choses extrêmement rapidement cuites. C'était nouveau. Donc comme tout ce qui est nouveau, il y a une attirance du public pour renouveler un peu la gamme de saveurs. Donc ça a été, tout est repris par le grand public. En fait, une fois qu'ils ont été un petit peu habitués à ce genre de cuisine, il y en a qui ont voulu le faire chez eux. Donc ça s'est développé gentiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on peut avoir... on achète son wok au supermarché et puis on a des gazinières qui sont adaptées pour faire ce genre de cuisine à la maison. Donc c'est très facile.
Une autre influence qui nous vient de l'Asie, particulièrement du Japon sans doute, c'est l'usage des algues dans la cuisine qui nous paraissait il y a assez peu de temps assez étonnante et qui aujourd'hui se développe. On dit même que la culture des algues pourrait permettre de réaliser des aliments à haute teneur en protéines et qui pourrait très facilement et de manière très concentrée résoudre un certain nombre de problèmes de faim dans le monde. Donc au-delà du condiment, ça pourrait tout à fait être aussi une base alimentaire, comme le riz, comme les pommes de terre, comme les féculents.
Au niveau nutritionnel, l'algue effectivement est très complète. Pour revenir au Japon, les Japonais donc se nourrissent du produit de la mer depuis très longtemps et sont en pleine forme, quoi. Je veux dire, on connaît quand même en France les algues, puisqu'on en fait des gélifiants. Et donc, il existe dans les produits, même industriels, depuis très longtemps, la présence des algues. Bon, ça n'a jamais été vraiment mis en avant, parce que c'était un peu anti-commercial jusqu'à récemment. Mais on a quand même utilisé ce genre de produit depuis un petit moment, quoi. Alors bon, là, maintenant, les algues en tant que légumes, en tant qu'accompagnement, en tant qu'assaisonnement dans les sauces, en tant que c'est récent. Et c'est pas encore très développé dans la cuisine française. Quoi. En Bretagne, ils cultivent du wakame ou du kombu ou des choses comme ça. Jusqu'à maintenant, toute sa production est exportée. Maintenant, il y a quand même un certain volume qui reste en France et qui est utilisé. Alors maintenant, il y a l'agar-agar qui se développe dans toutes les cuisines modernes. Mais ça commence à se développer dans la cuisine, je dirais pas quotidienne, mais professionnelle. Ouais.
Une grande difficulté avec la cuisine d'Orient, c'est parfois de trouver une alliance avec un vin qui lui correspond. Je crois que, je le rappelais en début d'émission, vous êtes en tandem en fait dans ce restaurant parisien que vous tenez en fait avec votre frère. Votre frère s'occupe particulièrement de la cave. Donc, est-ce qu'il y a une difficulté particulière à trouver une alliance entre ces saveurs et puis des crus de vin?
Alors nous, généralement, quand on cherche à faire une alliance, on commence par le vin. Parce que le vin, on peut rien faire. Il est là, il est fait, ses saveurs sont dans la bouteille. Donc on commence par goûter le vin, et puis après, on commence à prendre telle et telle épice, et puis on fait les mariages. Donc et pour arriver jusqu'à arriver à quelque chose qui est concordant, qui a des saveurs qui sont... Alors généralement, en plus, nous, on pense que les vins qu'on dit poivrés ou qu'on dit... Enfin, il y a des goûts d'épices ne vont pas forcément avec, justement, un plat aux épices. Donc on essaye d'être un petit peu antinomique et puis de faire quelque chose qui soit complémentaire plutôt que qui se ressemble. Et ça marche très très bien.
Dans toute création, dans tout art, il faut éviter bien sûr la redondance. Sur cette question du vin et de l'Asie, de l'Orient, de l'extrême-Orient plutôt, Jean-Paul Rocher, est-ce que la culture du vin se développe dans ces régions, sur ce continent? Il y a du vin chinois que l'on peut trouver effectivement, mais qui a quand même un goût un peu particulier, quoi, on va dire. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être plus intéressantes, que l'on voit apparaître?
Non, il y a du vin chinois, du vin japonais également. Il y a pas mal de vin au Japon. Mais je voulais revenir sur ce que vient de dire Philippe. C'est très intéressant parce qu'il faut, partir du vin, de toute façon. Souvent, les gens se disent, tiens, on va faire, pour un exemple tout bête, on a un gigot, quel vin va pouvoir aller avec le gigot? C'est l'inverse qu'il faut faire. Bon, évidemment, ça suppose avoir une cave, pas forcément riche, mais variée. Et à partir du vin, vous pouvez imaginer après un plat ou décliner quelque chose, enfin évidemment du solide, pour accompagner le vin.
Quand on va dans les restaurants, au Japon, à midi, les restaurants sont remplis de femmes, il n'y a pas d'hommes. Et jusqu'à récemment, ces dames buvaient un gentil petit thé. Maintenant, c'est un petit coup de blanc. Ça rentre dans les mœurs et le vin a pris le pas sur ce qui... Alors on continue à boire du saké, bien sûr. Et puis il y a du saké qui est non filtré, il y a du saké qui est dans la même veine. Hein, je veux dire, on fait du très très bon saké, avec une eau bien, bien sélectionnée. Enfin, bon, il y a tout un processus qui est aussi intéressant que le vin. Mais au niveau du goût, le Japon, à mon avis, va devenir un très très gros consommateur de vin. Et puis de très bons vins, pas n'importe quoi.
Des vins naturels.
Des vins naturels, bien sûr.
Bon, alors je pense qu'on va conclure ce premier entretien en rappelant peut-être la suite de nos rencontres autour de cette résidence offerte par les grandes tables de la Friche à Jean-Paul Rocher et à de nombreux autres intervenants qui vont venir nous rejoindre au cours des mois prochains. Prochaine rencontre du 8 au 10 juin, ça sera autour du vin naturel, avec un hommage particulier à Jules Chauvet, père, je crois, de l'œnologie moderne. Et on aura Marcel Lapierre, une rencontre avec Jérôme Van der Putte. Et du 12 au 14 juin, avec Philippe Roman. Du 27 au 29 juin, la maison d'édition Les Purs sera à l'honneur. Et en juillet, ce sera Gloire à la tomate, avec la participation de Tony Vianello. N'hésitez pas à contacter l'équipe des Grandes Tables pour de plus amples informations sur la suite de ces agapes. Je vous le rappelle, un certain nombre d'ouvrages qui font partie de la collection des éditions Jean-Paul Rocher sont disponibles à l'entrée du restaurant. Allez y jeter un coup d'œil, vous pouvez aussi les acquérir. Et comme ça, en rentrant chez vous, vous exercez à toutes les recettes qu'elle vous propose et aussi aux réflexions qu'elle vous propose. D'ici là, bon appétit. Merci à tous. Merci.
À table.